Et on va rester dans le sujet d'une certaine façon, puisque la question que nous vous posions hier était la suivante. L'extrême gauche vous semble-t-elle plus dangereuse que l'extrême droite en termes d'antisémitisme et en, je dirais, en termes de politique tout court? Vous étiez très nombreux à penser que oui. Sur Insta, 78% de oui. Sur Twitter, 83% de oui. Sur Facebook, nous sommes à pas loin de 80% de oui. Alors, on a demandé, Lucie Gilson a demandé son avis sur la question à Jean-Yves Camus. Voici ce qu'il en pense.
Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Ce matin, nous avons demandé à nos auditeurs si, selon eux, l'extrême gauche leur semblait plus dangereuse que l'extrême droite. Et on aimerait avoir votre avis sur cette question. Alors tout d'abord, c'est une vraie question. Pensez-vous qu'il faille se tourner vers l'extrême gauche pour contrer l'extrême droite aujourd'hui ?
Il ne faut pas plus se tourner vers l'extrême gauche pour combattre l'extrême droite que se tourner vers l'extrême droite pour combattre l'extrême gauche. Entre les deux, il y a un chemin qui est difficile, qui passe par les conservateurs modérés, par les libéraux, par les sociodémocrates, à condition qu'ils refusent une alliance avec la gauche radicale, dont on connaît les positions sur Israël, sur des fois même sur la communauté juive. Quand Jean-Luc Mélenchon déclare qu'en France l'antisémitisme est résiduel, on sait qu'il n'a pas perdu la raison, donc on doit en déduire que c'est un choix politique. Donc, il faut écouter aucune des voix qui vous amènent sur des rivages qui, de toute façon, ont non seulement pour les Juifs, mais pour le pays en général, que ce soit d'ailleurs la Belgique ou la France, des conséquences qui seront extrêmement difficiles.
Le week-end dernier, l'extrême droite est sortie largement vainqueur des élections européennes, pas seulement en France ou en Belgique, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut rapidement expliquer cet engouement pour l'extrême droite ? C'est un attrait de la nouveauté ?
C'est un attrait de la nouveauté, en tout cas en France. Je dirais plutôt que c'est un attrait de ceux qui, n'ayant jamais exercé le pouvoir, n'ont jamais pu faire la preuve ni de leur compétence ni de leur incompétence. Les Français se disent, jamais le Rassemblement National et avant lui le FN n'ont été associés à la gestion de la nation, pas davantage d'ailleurs à la gestion des régions, ils n'ont que quelques communes, généralement moyennes, donc on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. La seule chose qu'on sait, d'après leur programme, c'est qu'ils ont l'intention, passez-moi l'expression, de renverser la table, et pas juste de mettre un coup de curseur à gauche ou un coup de curseur à droite. Ça, évidemment, l'attrait de la nouveauté, ça peut être assez tentant, comme Paris, d'ailleurs. Je ne sais pas si ce sont les électeurs qui ont fait le pari, ou les électeurs et le président de la République, parce que cette décision de dissoudre, elle est faite quand même à 8h05, en toute connaissance de cause des résultats qui viennent de tomber, et du risque que le RN arrive en tête, même avec une majorité relative, aux prochaines législatives. Donc il y a plein de gens en ce moment qui jouent avec le feu. Et moi, je n'ai pas davantage envie de jouer avec le feu Rassemblement National qu'avec le feu que j'ai vu défiler sous mes fenêtres samedi, c'est-à-dire la France insoumise, le NPA et tout ce qui s'agglomère aujourd'hui autour de la gauche radicale et dont les slogans sont clairement, pour un certain nombre d'entre eux, antisémites, dont les affiches sont configurées de telle manière qu'on voit bien dans la carte de la Palestine qu'ils montrent qu'il n'y a pas de place pour une solution à deux États.
Alors, vous l'avez évoqué rapidement, on ne peut pas s'empêcher de le faire avec une telle thématique, de prendre l'exemple de la France. Donc, les partis de gauche ont formé aujourd'hui, à l'annonce des élections législatives anticipées, ils ont formé un nouveau Front populaire avec pour objectif commun de contrer l'extrême droite. Dans les faits, on voit quand même que ça ne marche pas. Pas très fort. Est-ce qu'on peut y croire quand même à ce projet ? Pensez-vous que ces élections européennes peuvent avoir aussi un effet électrochoc sur ce paysage politique et permettre finalement de transcender les divisions qu'on peut avoir dans une société bipartite ?
Moi, je pense que les divisions, elles sont... et je précise tout de suite que je ne suis pas politiquement sur la ligne de Manuel Valls, mais je pense comme lui que les divisions sont irrémédiables et que ce sont des projets irréconciliables. D'une part, parce qu'on ne peut pas promettre la lune. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme les filles, ignorer tout simplement le problème de la dette, ignorer le problème de la situation financière du pays, dire aux Français, comme d'ailleurs le fait aussi le Rassemblement National, comme le fait Gabriel Attal aussi, depuis 48 heures, demain on rasera gratis. Ça n'est pas possible. Et puis, ces projets sont irréconciliables parce que La question de l'antisémitisme est devenue, et ça c'est tout de même une première depuis 1945, un sujet central de débat dans une campagne électorale qui traite d'abord de l'Europe et ensuite de l'élection du Parlement français. Mmh. On ne devrait pas, normalement, focaliser la campagne sur ce qui se passe à Gaza. Soyons modestes, la France est encore une puissance de quelque importance, mais elle n'a pas les moyens de faire s'asseoir les partenaires à la table de négociation pour qu'ils accouchent d'une solution durable, quelle qu'elle soit. Donc, au lieu de rester dans les affaires intérieures qui d'ailleurs mobilisent les Français, le pouvoir d'achat, la situation économique en général, la sécurité, le contrôle de l'immigration, eh bien, cette campagne a dévié. Et elle est devenue, du fait de la France insoumise, une campagne pour... Pourquoi au juste? Pour la libération de la Palestine. C'est un peu ce que j'ai entendu dans le cortège de samedi. Donc, moi, si je me fie au cortège, encore une fois, qui est passé sous mes fenêtres, je ne peux pas, en conscience, voter pour une alliance qui présente, mais enfin, rendons-nous compte, Philippe Poutou, dirigeant du nouveau parti anticapitaliste, dans une circonscription gagnable pour la gauche. Ça n'est pas possible. Le PTB part sous ses propres couleurs, les socialistes partent sous leurs propres couleurs. Imaginez qu'à un moment donné, les deux réalisent un accord et donnent aux dirigeants du PTB une circonscription parfaitement gagnable. On va crier au fou. Ben c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes.
Alors, c'est intéressant que vous évoquiez le fait que la guerre au Proche-Orient devient vraiment un sujet de cette campagne-là. C'est aussi le cas dans d'autres pays qui ne sont plus dans l'Union européenne maintenant. C'est l'Angleterre. Il me semble qu'il y a eu un article à ce sujet. Pourquoi est-ce que ce conflit cristallise autant de passion et... pourquoi, enfin, comment c'est possible aujourd'hui que les politiques puissent utiliser en fait ce conflit pour servir leur campagne?
Je vais mettre une hypothèse audacieuse, mais à laquelle je crois concernant le cas de la France et d'un certain nombre d'autres pays, parce que nous n'y pouvons rien. C'est-à-dire que finalement, la France, qui a été une puissance mondiale, qui a eu, je le rappelle, avant la Seconde Guerre mondiale, le mandat de la Société des Nations sur le Liban et la Syrie, qui avait une influence notable en Égypte, voudrait bien, c'est une constante depuis très longtemps, pouvoir être la puissance qui, j'allais dire, livre au monde la clé d'un conflit dont je ne suis même pas sûr que les protagonistes réussiront dans un avenir proche à le dénouer. Et comme notre impuissance est certaines, finalement, toutes les surenchères sont possibles. C'est un petit peu la différence, si vous voulez, avec la situation américaine, où tout de même, les candidats savent qu'à un moment donné, s'ils sont présidents des États-Unis, ils auront, eux, du pouvoir de parler aux protagonistes et de leur indiquer un peu le chemin à suivre, mais le chemin qu'ils donneront à suivre ne peut être ni et reste Israël à Shelma, ni un État palestinien qui ferait disparaître Israël. Donc, à un moment donné, nous ne sommes plus tenus au moindre réalisme. Il faut ajouter à ça, dans le cas de la Grande-Bretagne, quelque chose qui est connu depuis assez longtemps. Vous savez, moi, depuis que je suis allé à Londres, il y a déjà 20 ans, et que j'ai pu me présenter gentiment au siège d'un des principaux mouvements salafistes, il s'agissait d'Al-Muhajiroun, et de leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez un peu de littérature à me confier? Je suis reparti avec un kilo de littérature djihadiste, de DVD djihadiste. Donc, depuis le moment où j'ai vu Londres tourner comme ça, et c'est pareil dans certaines autres grandes villes d'Angleterre, je pense que ce pays est gangréné par un communautarisme qui tient à la structure même de la société, puisqu'on accepte là-bas que les communautés s'expriment en tant que telles et aient leur propre mode d'autorégulation. Et là aussi, la gauche porte une grande part de responsabilité. S'il n'y avait pas eu George Galloway, s'il n'y avait pas eu Jeremy Corbyn, peut-être les vannes se seraient-elles ouvertes moins facilement. Mais dans certaines villes d'Angleterre, la situation est perdue. Enfin, en tout cas, pour les Juifs, elle l'est depuis déjà assez longtemps.
Alors, revenons à notre sujet principal. Ce week-end, plusieurs manifestations ont eu lieu en Belgique et en France pour se soulever contre l'extrême droite suite à la victoire des élections européennes, cet électrochoc de dimanche dernier, et finalement dire populairement que cette montée n'était pas inéluctable. Donc en France, on l'a dit, l'union des gauches est très médiatisée depuis la dissolution. Est-ce que c'est un projet de société, ce projet de société que nous promet la gauche? Est-ce que c'est un projet viable aujourd'hui, ou est-ce que en fait ça montre une autre tendance sociétale de l'opinion publique?
Écoutez, moi je suis de tradition un social-démocrate. Si vous me posez la question de savoir, vous reconnaissez-vous dans un programme du Nouveau Front Populaire qui comprend les revendications de LFI, je vous réponds non. Sur un certain nombre de revendications des écologistes, qui sont des revendications environnementales, et encore sur pas toutes, je peux me retrouver, je peux au moins discuter. Mais avec Rima Hassan, sur la Palestine, avec Jean-Luc Mélenchon, sur ce qu'est l'antisémitisme en France aujourd'hui, je ne peux pas, ou je ne peux plus discuter, parce que nos visions sont totalement antagoniste. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'une fois le Parlement, enfin l'Assemblée nationale élue, on en revienne à un peu plus de raison, à des questions de politique intérieure. Mais encore une fois, même sur les questions économiques, le programme de LFI et celui des éléments vraiment sociaux-démocrates du Parti socialiste, ça n'est pas la même chose. Il y a une question de réalisme, il y a l'acceptation de l'économie de marché, d'une économie de marché tempérée par une certaine dose d'intervention de l'État, notamment en matière sociale. Mais à un moment donné, il faut avoir la clarté de dire, nous ne sommes pas pour la société sans classe, nous ne sommes pas pour l'abolition du capitalisme, nous ne sommes pas pour l'abolition des règles du marché.
Alors, ma dernière question, on a quand même l'impression que l'union des partis, quels que soient leurs idéaux, les idéaux qu'ils défendent respectivement, reste un peu laborieux. On a vu que en France, par exemple, la droite se déchire également. Est-ce qu'on va vers une société polarisée, à l'exemple des États-Unis, par exemple, et leur système bipartite?
On va avant tout vers une société où il y a de moins en moins de gens qui veulent faire de la politique. Moi, je vais participer tout à l'heure à un congrès d'élus ici à Bruxelles, où une des principales préoccupations va être d'abord la violence contre les élus nationaux, locaux, et souvent la violence pour des broutilles. C'est un zoning qui convient pas à l'un des habitants qui s'énerve et qui va trouver le maire pour lui casser la figure. C'est des problèmes de ramassage d'ordures, des problèmes de voisinage qui dégénèrent. Bref, toute une série d'incivilités qui font que les maires, notamment, qui en France, dans les petites communes, je le rappelle, ne sont pas rémunérés. Et puis, il y a aussi cette désaffection massive vis-à-vis de l'engagement citoyen. Chacun se replie sur son petit précaré, considère que sa réussite, c'est sa réussite familiale, sa réussite professionnelle, et que finalement, l'horizon collectif, si vous voulez, ce qu'on appelait autrefois d'un nom désuet, bien commun, c'est quelque chose qui finalement n'intéresse personne. Il faut dire que quand on voit la manière dont un certain nombre d'hommes et de femmes politiques se sont comportés pendant la dernière semaine, en laissant de côté toute forme de conviction pour conserver un siège qu'ils détiennent souvent depuis déjà une vingtaine d'années, et accéder de nouveau pour certains à un poste de ministre ou de secrétaire d'État, on se dit que on n'a pas tellement envie de participer à cette représentation-là, de quelque chose qui n'est pas l'intérêt citoyen.
Eh bien, c'est pas très réjouissant tout ça, mais merci Jean-Yves Camus pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïca.
Merci à vous.